1h05, dernière partie de la Grande Table. Caroline Brouet.
Avec notre invité Alain Supiot, bonjour.
Rebonjour.
Vous êtes professeur au Collège de France, vous êtes spécialiste de droit social, titulaire de la chaire État social et mondialisation, analyse juridique des solidarités. Vos travaux sont en général au carrefour du droit, de l'anthropologie, de la philosophie. Ils portent principalement sur le travail et l'État social. Vous publiez en ce moment, simultanément, quasiment, deux livres. Le premier, c'est Les cours au Collège de France 2012-2014, La gouvernance par les nombres. Le deuxième, c'est La solidarité, enquête sur un principe juridique qui paraît aux éditions Odile Jacob, deux thèmes dont on a beaucoup parlé ici à Radio France depuis 3 semaines. Pour vous interroger à nos côtés, Mathieu Pot-Bonneville est avec nous, bonjour.
Bonjour.
Philosophe bien connu des auditeurs de la Grande Table. Vous disiez Alain Supiot dans le journal d'Antoine Mercier que la gouvernance par les nombres c'était en quelque sorte une inversion des objectifs et des moyens. Alors si tel est le cas, est-ce que vous pourriez nous dire comment s'est opérée cette inversion pour qu'on en arrive là et comment elle se traduit aujourd'hui, puisque vous avez dit également que c'était un diagnostic général et pas seulement propre aux entreprises publiques, mais bien sûr d'ailleurs même peut-être avant tout aux entreprises privées. Comment se traduit cette inversion ?
Oui, enfin, inversion ou substitution. Tout à l'heure, j'évoquais la notion de régime de travail réellement humain. C'est une notion qui est apparue dans nos textes en 1919, dans le traité de Versailles, après les massacres de la Première Guerre mondiale. Et pour moi, le rapport au travail est absolument central dans ce que nous vivons. La Première Guerre mondiale avait été la première expérience en vraie grandeur d'une généralisation du taylorisme, c'est-à-dire d'une gestion industrielle du matériel humain. Mais c'est un système dans lequel vous avez un petit nombre de personnes qui sont payées pour penser et un grand nombre de personnes à qui on interdit de penser. Il y a un échange célèbre de Taylor avec un ouvrier qui dit « Pourquoi tu me dis de faire ça ?» Il dit « Tu n'es pas payé pour penser, d'autres sont payés pour cela. » Donc il y avait là une injustice fondamentale, mais qui n'a pas été soulevé parce que majoritairement la gauche politique et syndicale a considéré que le taylorisme était un progrès de la science et que donc il fallait non seulement l'admettre mais s'en servir comme principe d'organisation de la société. Et l'on sait que Lénine par exemple a des phrases où il dit son admiration pour Taylor et la volonté d'organiser l'Union soviétique tout entière sur ce mode. Ce qui a donné une première expérience de ce que j'appellerais un gouvernement par les nombres, puisque le Gosplan, sur lequel il serait très intéressant de revenir, c'est une première tentative pour régir une société tout entière, à la base, à partir d'une institution qui faisait partie des institutions scientifiques de l'Union soviétique, et qui produisait des chiffres de contrôle. Ça s'appelait des chiffres de contrôle. Alors, il y avait des procédures extrêmement complexes sur lesquelles dont je vous fais grâce. Mais l'idée, c'est que les règles de droit, les règlements, étaient des instruments de mise en œuvre de ces objectifs chiffrés et qu'on allait pouvoir passer à une sorte de gestion scientifique de la société. Mais on avait encore, puisque c'est un modèle taylorien, des dirigeants et des dirigés. Ce qui est nouveau avec la gouvernance par les nombres, je pense, c'est un changement d'imaginaire. L'imaginaire taylorien était encore un imaginaire de l'horloge. Il faut se rappeler qu'il n'y a qu'en Occident qu'on a installé des horloges sur les églises, et même quelquefois comme objet pratiquement d'adoration, comme on peut le voir à la cathédrale de Strasbourg, c'est-à-dire avec l'idée que l'univers tout entier est un vaste mécanisme d'horlogerie. Alors au départ, il y avait un grand horloger, après on en a fait l'économie, mais on se retrouve avec Charlie Chaplin dans les temps modernes, qui est lui-même l'engrenage d'une horlogerie. À partir de la Seconde Guerre mondiale, cet imaginaire a cédé place à l'imaginaire cybernétique et nourri aujourd'hui par la révolution informatique, mais qui apparaît avant les ordinateurs se répandent, c'est dès les années 50. Et dans ce schéma, le travail n'est plus perçu simplement comme l'obéissance mécanique, comme un engrenage qui est soumis à des ordres, mais comme une réaction à des signaux. Et cette conception n'est plus, si je puis dire, l'apanage simplement des masses ouvrières ou des employés, mais elle s'étend à tout le monde. Et aujourd'hui, cette façon de concevoir le travail s'étend même, par exemple, je prends l'exemple des chercheurs, qui a priori sont des gens qui sont payés pour penser. La révolution, le taylorisme n'avait pas modifié beaucoup leurs conditions de travail. Enfin, peut-être ils avaient le téléphone, ils prenaient un paquebot pour aller à des congrès. Aujourd'hui, c'est la bibliométrie. C'est-à-dire, ils sont évalués en fonction d'une production quantifiée d'articles. Ce qui donne lieu d'ailleurs à une augmentation assez importante des fraudes en matière de publication scientifique. Donc c'est un schéma qui s'est répandu sur l'ensemble des organisations, qui concerne aussi le monde politique lorsqu'il agit uniquement en considération de ses indices de popularité. Le patron d'une grande entreprise qui agit en les yeux fixés sur les cours de bourse n'est plus dans l'action mais dans la réaction. Donc c'est ce modèle cybernétique qui à terme évidemment est mortel pour la pensée. C'est ça, c'est le bobo de cette affaire.
Mais en quoi, Alain Supiot, la logique comptable que vous décrivez là, hein, quand on vous écoute, est-elle moins humaine ou produit-elle un travail moins humain que l'autre logique qui fait de la comptabilité ou des nombres un objectif et non des moyens?
Ah, je voudrais défendre les comptables ici. Vous mettez les comptables en cause. C'est une très belle invention, la comptabilité. Et justement, elle a fait l'objet de réformes drastiques à la fin des années 90, de ce type de réformes sur lequel il serait important de revenir et de réfléchir. La comptabilité était dominée par un principe qu'on appelle le principe de prudence. Donc il s'agissait de donner des tableaux chiffrés, rendant compte d'une activité, et qui permettait de rendre responsable celui qui menait cette activité. À la fois, c'était un miroir pour lui-même et pour les autres. Il y a M. Jubé qui a écrit un très beau livre sur ce sujet. Et ce qui s'est passé dans les années 90, c'est qu'on a abandonné le principe de prudence dans les normes comptables au profit de ce qu'on a appelé la fair value, c'est-à-dire la valeur de marché en réalité. Donc, du jour au lendemain, on a pu dire que tel bien, ça vaut beaucoup plus cher, parce que la prudence voulait dire qu'il fallait déduire la valeur d'amortissement. Donc, ce n'est pas une logique comptable dans le bon sens du terme que cette liquidation de la prudence. C'est au point même, d'ailleurs, que lorsqu'il y a eu le retournement de 2008, les banques ont demandé à sortir du nouveau système de fair value parce que ça faisait apparaître les gouffres gigantesques qui se trouvaient dans leurs comptes.
Antoine.
Oui, juste une petite précision, parce que vous avez utilisé l'expression qui tue, si je puis dire, mortel pour la pensée, tout cela. Comment se fait le lien entre ce que vous décrivez et le fait que ce soit la mort de la pensée, qu'on ne puisse plus penser derrière.
J'essaie de... c'est un aspect, je pense, dans ce livre, où c'est en le faisant que j'ai pu clarifier mes propres idées. On est en général d'accord pour considérer que le travail que décrivait Chaplin, enfin, il n'est pas le seul, parce que les artistes ont toujours été bien meilleurs que les universitaires pour voir les choses arriver avant, hein. Qu'il y a une déshumanisation du travail lorsque l'être humain est réduit à l'état d'un outil mécanique qui obéit mécaniquement. Mais il y a aussi une autre forme de déshumanisation du travail, c'est lorsque vous êtes dans un monde de symboles qui est totalement coupé de la réalité. Proudhon dit quelque part que le travail humain, c'est celui qui agit avec une idée dans le creux de sa main. C'est une très belle expression qui peut valoir aussi pour un collectif, ça peut valoir pour Radio France. Il y a une idée commune dans le creux de la main et de la tête. Or, il y a des formes de déréalisation qui sont liées au fait qu'on est dans un univers de symboles coupé des réalités. Les universitaires, les chercheurs, les penseurs ont toujours été exposés à cette forme de folie. Dès que vous êtes derrière une page blanche, vous êtes menacé de délire, c'est-à-dire de décoller du réel. Et ces deux formes de déshumanisation ne sont pas alternatives, elles peuvent se combiner. On peut avoir des masses qui obéissent mécaniquement à des cerveaux hallucinés. C'est peut-être d'ailleurs des choses qu'on voit maintenant sur une assez grande échelle. Donc c'est pourquoi je pense qu'une pensée de l'économie aujourd'hui et d'un droit et d'une institution devrait remettre au cœur de ses préoccupations cette notion de régime de travail réellement humain en donnant à chacun cette expérience de découvrir ce qu'il est dans ce qu'il fait, mais en se coltinant avec la réalité, ce qui est pénible aussi. C'est pas dire que c'est forcément une partie de plaisir, mais de donner à chacun cette expérience, ce qui permettrait de sortir la justice sociale de l'espèce d'antinomie où elle est, ou bien on la définit en termes d'avoir, ce qui a été le cas de la justice sociale, disons, de l'après-guerre, ou bien en termes de reconnaissance, de lutte de la reconnaissance, comme si l'identité de chacun était donnée une fois pour toutes, et alors qu'elle se découvre en se faisant, si vous voulez.
Mathieu Pot-Bonneville.
Oui, en vous écoutant, les auditeurs peuvent mesurer le sentiment de vertige ou parfois de montagne russe qui saisit vos lecteurs à la traversée de domaines et de types de questions extrêmement, extrêmement variés, extrêmement différents, allant effectivement du champ du travail, considéré dans ses détails, dans le détail de son organisation, aux questions d'instrumentation comptable, à de grandes considérations sur le devenir, au fond, de l'ordre politique. Et je crois que la particularité du livre, hein, La gouvernance par les nombres, c'est vraiment cette tentative de tenir ensemble une analyse au plus proche des instruments, dans la foulée d'une certaine sociologie contemporaine qui analyse justement ce que c'est que gouverner par les instruments, ce que les instruments du pouvoir font à l'exercice du pouvoir. Et là, vous êtes très proche de l'analyse, d'une analyse sur les dispositifs, les mesures de droit du travail, etc. Et puis, dans le même temps, tenir cela avec une considération de très grande ampleur, à l'échelle, au fond, d'histoire de l'Occident, sur la place du nombre et la place des nombres dans notre imaginaire politique et dans notre représentation de la légitimité politique. Donc il y a ce grand écart-là, et vous lisant, je me disais que ce grand écart, il n'est évidemment pas artificiel, parce que c'est exactement la difficulté ou le dilemme que rencontrent celles et ceux qui essaient aujourd'hui de s'opposer à ce genre de logique. Puisqu'au fond, on n'est pas exactement dans n'importe quel contexte, ni dans n'importe quelle actualité aujourd'hui sur France Culture, mais lorsqu'on est en but à ce type de discours, on a deux réactions possibles. On dit, attendez, tout n'est pas dénombrable, mais alors on se fait accuser de romantisme. Ou alors, attendez, mais nous voulons simplement que les règles de bonne gestion soient respectées, c'est-à-dire essayer de donner des gages de conformité à la rationalité comptable. Et dans ce cas-là, on se voit répondre qu'il y a justement des experts pour cela et que ce n'est pas forcément du ressort de tout un chacun d'évaluer ces choses. Et j'ai trouvé que dans votre livre, il y avait une espèce de miroir vis-à-vis de cette difficulté, vis-à-vis de ce dilemme-là, soit essayer de sortir de la logique du nombre, mais se voir accusé de romantisme, soit essayer d'entrer, de s'approprier cette logique du nombre et de la mesure, mais se retrouver piégé dans une discussion comptable qui perd peut-être l'essentiel.
D'où votre question pour terminer, Alain Supiot, comment en sortir, qui est d'ailleurs la question sur toutes les lèvres en ce moment. Alain Supiot.
Oui, sur ce qui vient d'être dit, il ne s'agit pas du tout d'un brûlot contre la quantification. C'est un instrument très puissant de la pensée humaine. Simplement, il me semble que le passage de ce qu'était le libéralisme classique à l'ultralibéralisme, et dont le Gosplan fut un moment, et je souligne la proximité qu'il y a entre ce que nous vivons et ce que vit par exemple la Chine communiste. Il me semble que la notion de dictature démocratique et à l'article 1er de la constitution chinoise s'applique assez bien au sort qu'on administre en ce moment à la Grèce, si vous voulez. Mais donc par rapport à ce qu'était le libéralisme classique, c'est qu'il place les calculs marchands sous l'égide de la loi. Et le propre du renversement auquel on assistait, c'est que ce sont, au contraire, c'est la loi qui est placée sous l'égide d'un calcul. Ce qui est lié à ce que je disais tout à l'heure sur le travail, on parle du sens du travail. Et alors, ceci va conduire à cette montée du pouvoir des experts, qui est en réalité une restriction considérable du champ et du périmètre de la démocratie. J'en donne un petit exemple, c'est pas pour provoquer, mais enfin, c'était la contrefaçon du prix Nobel par les économistes. C'est une histoire assez amusante de ce point de vue, puisque ça vient justement à ce moment où commence à s'installer l'ultralibéralisme. Évidemment, Nobel, qui avait des choses à se reprocher, c'est un marchand de canons, mais là, on ne peut pas lui reprocher d'avoir inventé le prix Nobel. Il n'a jamais fait une chose pareille. D'ailleurs, son petit-fils s'est plaint vigoureusement. Il a dit qu'ils sont venus comme des coucous pondre leurs œufs dans le nid des autres, en parlant des économistes. Mais il s'agissait de donner à un certain discours économique une force scientifique, parce que de quoi ne discute-t-on pas dans les parlements, soit du religieux, soit de la science. Et donc, à partir du moment où on dit que les questions de production et de répartition des richesses relèvent d'un corps de savoir scientifique, c'est une manière de les expulser du champ de la démocratie, et c'est ce qui se fait sur une grande échelle. Alors, comment en sortir ?
On va venir à cette question dans un instant.
France Culture, La Grande Table, Caroline Brouet.
Avec notre invité, le professeur au Collège de France, Alain Supiot, qui publie La gouvernance par les nombres, ses cours au Collège de France de 2012 à 2014, et conjointement La solidarité, enquête sur un principe juridique qui paraît chez Odile Jacob. Pour l'interroger autour de la table, bien entendu, Antoine Mercier à mes côtés et Mathieu Pot-Bonneville. Mathieu Pot-Bonneville, une question.
Oui, je voudrais rebondir sur la métaphore du coucou que vous venez d'employer, parce que dans la trajectoire que vous décrivez, il y a aussi quelque chose du coucou. En ce sens que ce que vous décrivez, c'est la manière dont cette gouvernance par les nombres, elle s'est installée en faisant fond sur des exigences qui, dans un premier temps, avaient justifié le règne de la loi,
c'est-à-dire des exigences de rendre des comptes, des exigences de ne pas être sous la suggestion directe d'une personne, mais de règles impersonnelles. Et on assiste à... Moi, je voudrais que vous reveniez sur ce renversement-là. Comment passe-t-on de cette exigence, au fond, politique, tout à fait défendable, du « nous voulons des règles pour pouvoir demander des comptes et pour n'être pas sous la coupe de quelqu'un » à cette gouvernance par les nombres qui dépossède à la fois de la liberté et de la volonté politique.
Alain Supiot.
Bon, je vais vous répondre un petit mot quand même sur les... Parce que je ne voudrais pas me fâcher avec un autre éditeur qui sont les éditions Dalloz, que j'ai publié aussi un livre sur l'entreprise, qui est un livre collectif.
Vous avez trois livres en ce moment.
Oui, parce qu'il y a des moments de ponte.
On en a avec deux, pardon,
et au milieu de la nuit aussi, non, je crois, non
non, mais ah ça, bon. C'est un...
Ça, c'est plus vieux.
Ça, c'est plus... Enfin, bon, c'est
pas si vieux que ça.
C'est Bossuet. Non, mais sur l'entreprise, j'y tiens, parce que c'est... comme je l'ai dit, il me semble que c'est une des institutions menacées par le marché total. Donc, c'est une raison de mon intérêt pour... pour elle. Alors, sur le basculement que vous évoquez, de fait, l'invention du règne de la loi, et je remonte aux Grecs, parce qu'il faut, c'est très intéressant de voir que c'est par eux que la démocratie revient, mais c'est quand même là qu'on invente la démocratie, ils sont très fiers de cette idée que nous ne dépendons pas des hommes, mais des lois. Donc c'est l'idée d'une cité qui est cimentée par des lois et donc par un pouvoir qui n'est pas le pouvoir d'une personne. Nous sommes soumis, donc c'est ce qu'on appelait, un mot un peu savant, l'isonomie, mais enfin c'est la démocratie. Nous sommes tous à même distance et sous l'égide d'une loi impersonnelle, chacun peut donc agir librement. Et donc sous l'égide de la verticalité de la loi, on peut négocier nos affaires. C'est un petit peu le montage. Mais le problème qu'ils ont rencontré tout de suite, c'est qu'est-ce que c'est que cette loi ? Qui en est garant ? Et tout de suite, Calliclès va dire « mais la loi, on la connaît, c'est la loi de la nature, c'est la loi des plus forts ». Et on voit ce thème revenir de façon récurrente, sous un mode incandescent chez Sade, enfin, qui donne une certaine, peut-être, vérité de cela. Si on dit « l'homme est comme n'importe quel animal dans la nature, donc c'est la force qui règne et la loi est une pure fiction ». Donc la loi bute le règne de la loi face à cette question d'un garant légitime, le dernier qu'on ait inventé étant le peuple souverain, aujourd'hui déconsidéré sous les traits du populisme. Alors, à partir du XVIIIe siècle, effectivement, et de la révolution galiléenne, il y a l'idée que le monde s'ordonne par des nombres. Il y a de très jolies formules de Nicolas de Cuse ou de Galilée. Bon, Dieu se met à parler en chiffres, si je puis dire. Et on a, dans toute une partie des philosophes des Lumières, cette ambition d'arriver à calculer la loi, calculer les jugements. Je cite les critiques très sévères que Condorcet adresse à Montesquieu, parce que Montesquieu dit qu'il est quand même un père de la sociologie du droit comparé, s'intéresse à la diversité des cultures, des civilisations, et Condorcet dit « la loi, si on la calcule et si elle est rationnelle, elle doit être la même partout, sur toute la Terre, à tout moment, etc. » Donc il y a cette espèce de radicalité en disant « il faut déraciner toute coutume qui serait contraire ». Alors le problème de cet horizon, qui, comme vous le dites, est effectivement de faire un pas de plus dans l'impersonnalité de l'organisation de la société, c'est que ça n'est humainement pas vivable. C'est tout simplement ça. C'est que là, il n'y a plus de place dans l'univers du calcul. La conclusion s'ouvre par une citation d'Horkheimer. On est condamné à la répétition du même. Donc il y a la disparition de ce qui est proprement humain, c'est-à-dire de vivre aussi dans un univers de représentation qu'on va chercher à mettre en œuvre. Quand on est dans l'ordre du tout calculable, ceci disparaît. Et comme ça n'est pas humainement vivable et que ça produit des conséquences sociales dont on peut voir, enfin, je veux dire, la façon on traite les Grecs. Moi, j'ai vu en l'île aux Princes, en Turquie, des cochers kurdes enfin, qui tapaient sur leurs chevaux, mais jusqu'à les tuer, parce qu'en leur disant d'avancer. Mais il y a un moment où le cheval crève. Donc on pourra taper sur la Grèce indéfiniment. Mais il y a un moment où il faudrait quand même se poser, excusez-moi de me départir de la neutralité axiologique à laquelle je suis très attaché. Mais ce que j'essaie de décrire, c'est qu'à partir du moment où l'État n'est plus là, cet État honni, ben regardez la Centrafrique.
Il est là l'État,
non, mais je parle.
Elle est là la loi.
Regardez la situation qui va du Mali jusqu'à l'Afghanistan, passant par la Centrafrique, la Libye, vous allez voir dans quel État est l'État. Comment vous survivez dans ce genre de circonstances ? Ben, en faisant allégeance, c'est-à-dire en faisant allégeance à plus fort que vous, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va vous protéger ? Et c'est la même chose dans les petits réseaux de dealers, là où on ne fait plus confiance, aux capacités de protection de cette figure un peu totémique qu'est l'État. Et donc ce qui réapparaît massivement, ce sont des liens d'allégeance comme antidote, en quelque sorte, à l'affaissement...
Y compris chez nous, alors.
Du règne de... Si on prend le cas de l'entreprise, par exemple, la grande entreprise fordiste, centralisée avec un chef, maintenant c'est ce qu'on appelle les chaînes de production. Je m'attarde longuement sur le drame du Rana Plaza, où on a 12 ou 1300 ouvrières qui sont écrasées sous le béton. C'est une entreprise qui sous-traite pour un certain nombre de majors de la distribution dans le domaine du textile. Eh bien, ces entreprises sont dans un rapport de vassalité vis-à-vis de leur donneur d'ordre. Donc, je veux dire, ça ne veut pas dire qu'on revient au Moyen-Âge, mais que la structure réapparaît, parce qu'il n'y a pas 40 structures normatives. Il y a celle qu'on a décrite tout à l'heure d'une loi égale pour tous, et autrement, il y a celle qui a été la pratique féodale, où c'est le lien qui prend la place de la loi. Donc c'est les liens entre personnes qui structurent. Alors si vous regardez le fonctionnement des partis politiques, vous verrez, enfin on comprend, moi je disais toujours à mes étudiants, si vous voulez comprendre comment ça marche, lisez un manuel de droit féodal plutôt qu'un traité de droit administratif pour savoir comment fonctionne une municipalité aujourd'hui. Enfin,
à ce point-là
Oui, ça marche à l'allégeance quand même, globalement.
Oui, c'est l'un des aspects les plus fascinants du livre. C'est la manière dont le droit de suzeraineté et les relations féodo-vassaliques interviennent comme une manière d'analyser les relations que les individus et les institutions entretiennent entre elles aujourd'hui, y compris dans leur dimension protectrice. Dans l'analyse que vous proposez des mesures qui ont été prises après le drame du Rana Plaza, il y a cette idée que même la supervision du sous-traitant par l'entreprise mère et le fait que l'entreprise mère soit impliquée éventuellement, tout cela, c'est une modulation en fait d'un régime de relation qui n'est plus le régime de la souveraineté, mais bien davantage celui de la suzeraineté, si on vous suit.
Oui, il y en a beaucoup d'exemples. Le plus massif pour nous, Français, c'est la situation de l'Union européenne, qui n'a pas d'armée, qui a quand même un tout petit nombre de fonctionnaires rapportés à la taille de la population administrée. Et les États membres sont dans un rapport de type de vassalité à cette Union. C'est-à-dire, ce qui distingue le souverain du suzerain, c'est que le souverain a un lien direct avec tous les sujets, alors que le suzerain n'a de lien qu'avec des grands féodaux qui ont des liens avec des plus petits féodaux, et ainsi de suite. Et c'est ce qui se passe dans la structure juridique européenne. J'ai évoqué le cas des multinationales. J'évoque aussi un autre exemple, c'est la façon dont les grandes entreprises multinationales sont amenées à faire allégeance à la puissance américaine, qui est la seule à disposer d'un pouvoir souverain de marché. J'évoque l'affaire de BNP Paribas qui paye sans ciller 9 milliards de dollars, c'est-à-dire c'est plus que le budget annuel de la recherche en France, comme amende dans ces procédures où le procureur américain, le Department of Justice, a les moyens, en dehors de toute procédure contentieuse, c'est quelque chose qui a été très bien analysé dans un livre co-dirigé par Garapon, Antoine Garapon, oui, excusez-moi. Mais c'est un livre remarquable que je conseille, chez Dalloz aussi.
C'est
au PUF, oh là là, je vais me mettre mal.
C'est raté.
Mais vous avez, si vous voulez, donc c'est du petit réseau de dealers jusqu'aux relations qu'entretiennent les États-Unis avec les grandes multinationales dans ce genre de contentieux, c'est des clés d'analyse qui fonctionnent. Mais il ne s'agit pas de dire qu'on revient au passé, parce que c'est le retour d'une structure, et quand les structures reviennent, elles produisent du neuf.
En fait, ça explique peut-être pourquoi à Radio France, on a vu l'augmentation de 50% des cadres intermédiaires pour que la suzeraineté puisse s'exercer. Parenthèse, excusez-moi, je reviens sur, pour essayer d'aller un peu plus loin, la loi d'un côté, de l'autre côté, le lien. On a compris que c'était quand même la loi qui était préférable de toute façon, mais vous nous avez dit par ailleurs qu'elle se heurtait au problème de savoir qui va la garantir. On posait la question comment en sortir. Est-ce que ce n'est pas malgré tout en répondant à cette question qu'on pourrait éventuellement s'en sortir, c'est-à-dire de ne pas faire dépendre la loi de la loi du plus fort ?
Alain Supiot.
Oui, je ne dirais pas qu'est-ce qui est mieux. C'est-à-dire l'effort qui est conduit, au fond c'est pour ça que la République nous paye, nous autres universitaires, c'est d'essayer d'un peu mieux comprendre avec les outils disciplinaires dont on dispose, le monde dans lequel on vit, puis ça permet aux gens de penser ensuite à leur compte. Donc j'essaie d'être le moins normatif possible. Ce que j'essaie de décrire, c'est effectivement ce mouvement de réapparition des liens d'allégeance. Alors cela dit, il y a plusieurs formes possibles, parce qu'il y a la mafia. Si vous prenez la théorie des jeux, c'est très frappant quand on arrive là-dedans, qui est vraiment l'icône de la pensée économique, maintenant, le dilemme du prisonnier. Alors, si on parle de la théorie des jeux, il ne faut pas se tenir devant une société casino. Si on parle du dilemme des prisonniers, il n'y a pas de place pour Jean Moulin là-dedans. C'est la loi de l'omerta qui est promue. Donc, vous avez un versant de l'allégeance qui est certainement extrêmement menaçant. On le voit aussi dans toutes les formes de réidentification religieuse violente, enfin, dont les spectacles sont très nombreux. On peut penser aussi qu'il pourrait y avoir une manière un peu plus civilisée de procéder. Si vous voulez, la grande question, à mes yeux, c'est de savoir comment on lit les formes de solidarité qui s'inventent pour résister, pour survivre à cela. Parce que la tentation, c'est celle de repliement sur des cercles de solidarité fermés, identitaires, et qui se définissent dans une relation ami-ennemi qui, pour moi, connaissant un peu l'histoire du droit, évoque Carl Schmitt. Et Carl Schmitt, quand il emploie ça, qui est un juriste nazi, donc c'est le grand théoricien de la Constitution en Allemagne, autant sa conception du droit me paraît fausse, mais son symptôme ami-ennemi comme révélateur d'une crise de l'ordre institutionnel, ça marche. Et si vous prenez la dernière campagne électorale, on n'a rien vu d'autre que la désignation de l'ennemi, à partir du moment où vous ne pouvez plus avoir un objectif commun sur lequel vous fédérez une action collective, tout ce qui vous reste, c'est de désigner l'ennemi comme ennemi existentiel. C'est ce que dit Carl Schmitt. Malheureusement, on s'aperçoit que ça fonctionne aujourd'hui. Donc, pour répondre à votre question, la difficulté et le problème, ça serait d'arriver à soutenir ces formes de solidarité civile, à les articuler avec la solidarité sociale, donc à lier les différents cercles de solidarité au lieu qu'ils se définissent les uns les autres dans cette relation ami-ennemi.
Vous parlez aussi, Alain Supiot, de la nécessaire restauration d'un équilibre entre la coopération et la compétition pour tenter de retrouver un équilibre là aussi, une cohabitation comme avant cette inversion des choses, elle fonctionnait, pour tenter de réconcilier, disons, les approches mathématiques et juridiques.
Oui, d'ailleurs, puisqu'on parlait de l'entreprise et que je parlais des risques mortels que fait courir, j'ai trouvé dans l'agence Bloomberg, qu'on ne lit pas assez, l'agence Bloomberg, qui dans une note cet automne a indiqué que les entreprises incluses dans l'index Standard & Poor's ont dépensé en 2014 914 milliards de dollars en distribution de dividendes et rachats d'actions, soit 95% de leurs profits. Bon. Ce qui a été rendu possible, dans la fin des années 90, on a aboli un interdit séculaire qui était pour les sociétés commerciales de racheter leurs propres actions. Bon, ça a été fait en France par une loi Strauss-Kahn, mais ça s'est fait partout. Parce que racheter les actions, ça permet automatiquement d'enrichir les actionnaires au détriment de la société. Si vous rachetez la moitié des actions, l'action de chacun va avoir une valeur multipliée par deux. Et c'est devenu, alors ce qu'on apprend aussi en lisant Standard & Poor's, c'est qu'il y a eu une augmentation de ces rachats d'actions de 300% depuis 2009. Et que dans le même temps, il y a une chute totale de l'investissement. Bon. Donc vous êtes dans une forme de gouvernance par les nombres de la société où on dit ce qui va compter pour l'entreprise, c'est ce qu'on appelle la création de valeur pour l'actionnaire. Mais on voit que derrière, le cheval est en train de crever, vous voyez.
Mathieu.
Oui, il y a une phrase dans votre conclusion qui est très frappante, enfin, qui définit quelque chose comme un programme. Je vous cite, « Le bon usage de la quantification suppose un sens de la mesure que le droit peut contribuer à maintenir ou à restaurer en imposant le respect du principe du contradictoire dans l'élaboration et l'interprétation des nombres affectés d'une force normative. » Autrement dit, pouvoir discuter les indicateurs, pouvoir négocier autour de la définition même du mesurable et du mesuré, si je comprends bien.
Alain Supiot.
Oui, il faut. Je dois beaucoup au travail d'Alain Desrosières, qui était un ami auquel. D'ailleurs, j'essayais d'inciter qu'on l'invite un peu plus. Malheureusement, maintenant, c'est plus possible parce qu'il a joué un rôle quand même. Ses travaux sont très, très importants pour comprendre cette fonction constitutionnelle des nombres. C'est un grand historien de la statistique. Et ce qu'il faut voir, c'est que lorsqu'on parle d'un tableau quantifié, tous ces tableaux qu'on nous assène, ce sont des images où nous nous trouvons, chacun de nous se trouve dans le tableau. Et le problème, c'est la fidélité du tableau à ce qu'il représente. Alors, si vous avez maintenant un rapport, par exemple la comptabilité, ça marche un peu comme les saintes icônes dans le monde orthodoxe. Tant que tout le monde y croit, ça marche. Et puis il y a l'affaire Enron, on se met à plus y croire. Et à ce moment-là, ça tombe dans la catastrophe. Donc l'important, c'est de garder ce lien très fort entre la représentation chiffrée et les réalités, et ça suppose d'avoir du débat. Or, le propre de la représentation chiffrée par opposition à la représentation parlementaire ou ce qu'il en reste, ou pas à la démocratie sociale, c'est que ça échappe à un débat public. Donc il faudrait, pour articuler représentation démocratique, démocratie sociale et représentation par les nombres, il faudrait faire pénétrer effectivement du contradictoire dans la construction des, dans la construction des chiffres.
France Culture, la grande table. Il est 13h25, vous écoutez la grande table sur France Culture. C'est l'heure des idées au quotidien, la chronique de Raphaël Bourgois qui reste bien entendu comme chaque jour dans le thème aujourd'hui abordé. Le hacking est-il l'avenir du travail ?
Oui, bonjour Raphaël. Bonjour Caroline, bonjour à tous. Oui, à force de s'occuper d'emploi, on en oublierait presque de s'intéresser au travail. Il y a bien aujourd'hui une interrogation sur les symptômes, hein, comme la souffrance, la perte de sens ou le déficit de valorisation sociale du travail, mais peu de débats sur la nécessité de réinventer un modèle à bout de souffle. Il y a bien tout de même certains sociologues, juristes, anthropologues, psychologues, à l'image de notre invité d'aujourd'hui, non pas psychologue, hein, mais juriste et certainement anthropologue aussi, donc qui partagent une conviction qu'en perdant, pour ainsi dire, la dimension matérielle de la production, on est entré dans une nouvelle ère qu'on peut appeler post-taylorisme. L'urgence, c'est aujourd'hui la modernisation du travail. Et pour ça, on peut peut-être regarder du côté des hackers de la Silicon Valley. C'est en tout cas la proposition que fait Michel Lallemand dans un essai paru récemment au Seuil, L'âge du fer, F-A-I-R-E, sous-titré « Hacking, travail, anarchie ». Ce sociologue donne aussi un entretien dans une toute nouvelle revue, ce qui me donne l'occasion de la citer ici. Il s'agit du Panorama des idées qui en est à son deuxième numéro et dont je vous conseille la lecture. L'enquête menée par Michel Lallemand montre qu'on trouve en Californie des lieux où s'élabore une nouvelle grammaire du travail, propice peut-être à résoudre la contradiction toujours plus sensible entre la promesse sans cesse renouvelée de plus d'autonomie et au contraire le maintien d'une organisation hiérarchique, d'objectifs, d'évaluation qui limite de fait cette promesse d'autonomie. Le chercheur s'intéresse depuis longtemps aux initiatives qui permettent de s'écarter des modèles dominants d'organisation du travail. Le mouvement des hackers ou les hackerspace lui offre l'occasion de se pencher sur une utopie concrète, une expérience innovante qui fonctionne.
Mais c'est pas des pirates les hackers ?
Alors je vois justement à votre question Caroline que vous suivez et qu'il est temps de définir ce que sont les hackers et les hackerspace. Une bonne façon de le faire, c'est en effet comme vous venez de le faire, de traduire tout simplement hackers, cet anglicisme par ce qu'on fait habituellement en français, pirate informatique. Et en fait c'est impropre, les hackers n'agissent pas simplement dans l'illégalité, loin de là, leur philosophie s'étend bien au-delà du cadre numérique. Hack, c'est la hache, l'outil qui permet de bidouiller. Certes, la révolution numérique et la culture geek sont aux sources du mouvement, mais il s'agit aussi d'avoir prise sur le monde matériel, sur les objets. Les hackers accueillent aussi les makers, ces bricoleurs pour qui il est important de s'émanciper de la société de consommation en apportant la capacité de production au plus près des besoins individuels. On est donc face à des lieux de rencontre hein, avec ces hackerspace, de mise en commun des capacités pour faire aboutir des projets, des lieux où le travail est réhabilité comme fin en soi et plus seulement comme un moyen pour vivre. On retrouve là les travaux, par exemple, de l'Américain Richard Sennett sur l'intelligence de la main, la possibilité de retrouver du sens dans les tâches laborieuses. Il y a une dimension militante chez les hackers dans cette réhabilitation du fer, dans leur organisation horizontale, sans hiérarchie, fondée sur la coopération libre. On la retrouve aussi, cet engagement, on le retrouve dans le soutien logistique apporté à des mouvements comme Occupy Wall Street. Mais ce n'est pas non plus une révolution, si on en croit la lecture du livre de Michel Lallemand, propre à renverser complètement le système, plutôt l'ébauche de ce qui pourrait être une organisation du travail où l'exigence d'autonomie serait vraiment prise au sérieux.
Dès qu'il sera possible, nous inviterons Michel Lallemand à cette grande table. Une réaction en attendant, Alain Supiot, est-ce que vous venez d'entendre ?
Réaction, ça c'est un terme de la cybernétique, effectivement. On est tous invités à réagir. Non, ce que je voudrais juste dire, c'est que quand ce type de travail, nous avons des outils merveilleux. Enfin, je veux dire, l'informatique, il y a des outils absolument merveilleux. Et ce qui conviendrait, c'est de les mettre au service de l'intelligence et de la créativité au lieu de penser le cerveau humain sur le modèle de ces machines. Donc, mais elles nous donnent des possibilités inédites. Il y a une phrase de Barthes que j'aime beaucoup. Il dit que l'avenir dévoile en se faisant des issues inimaginables.
Merci beaucoup Alain Supiot d'être venu à la Grande Table aujourd'hui. Alors je vais donner les titres des deux livres que j'ai sous les yeux, vous donnerez le troisième. La gouvernance par les nombres, cours au Collège de France 2012-2014 chez Fayard, et La solidarité, enquête sur un principe juridique chez Odile Jacob, le troisième c'est chez Dalloz.
Il s'appelle L'entreprise dans un monde sans frontières.
Merci beaucoup d'être venu à la Grande Table, merci à vous Mathieu Pot-Bonneville. À la technique aujourd'hui, c'était Jacques Hubert.